Salut, c'est Steven Jambaud de l'Atelier des médias. Pendant 20 minutes à la radio, plus encore si vous avez choisi notre podcast, on va prendre ensemble la direction de la Guinée.
La République de Guinée, catégorie senior, 3-0. En part en musique.
Raphaël Constant et Camille Sarrazin étaient à Conakry il y a quelques jours. Elles sont allées à la rencontre des membres de l'association des blogueurs de Guinée, Ablogué. Une discussion improvisée entre trois blogueurs s'est transformée en un voyage dans le temps. 10 ans de web en Guinée qui ont vu naître une blogosphère et se développer les réseaux sociaux. Un des mieux placés pour en parler, c'est le fondateur d'Ablogué.
Je m'appelle Forissane Kekuyaté, ancien président de Ablogué. C'était déjà en 2010, on venait à peine de finir les élections. Et vous savez, les années qui ont suivi en Guinée, Internet a joué un très grand rôle dans la démocratisation, notamment aussi le partage de l'information. D'abord 2006, 2007, notamment cette période-là, cette transe de période, et 2009, Internet a vraiment joué un très grand rôle dans le processus de démocratisation en Guinée. D'abord, avec la fin du régime Conté, il y avait beaucoup de tensions, beaucoup de manifestations, des grèves et tout ça. Et l'Internet était en quelque sorte le moyen de communication privilégié parce que les informations essentielles dont on avait besoin n'étaient pas disponibles dans les radios. Donc, c'était la diaspora guinéenne qui fournissait l'essentiel des informations crédibles sur la Guinée, qui expliquait ce qui se passait. Sans être censuré ou sans craindre quoi que ce soit. Du coup, toute information qui venait de l'Internet, c'était imprimé, des fois des articles de presse étaient imprimés et puis distribués comme des tracts à cette période. Donc il y a eu en 2009, avec l'arrivée des militaires et tout ça, tout ce qui s'est passé, les violences et tout ça. Je parle en fait du massacre du 28 septembre 2009. Moi, j'étais l'un des manifestants du massacre du 28 septembre parce que j'étais au stade et j'ai de justesse échappé à la mort. Donc après le 28 septembre, un an d'exil, ensuite je suis revenu. Et puis voilà, je mis en place avec les amis l'association des blogueurs de Guinée. Mais bien avant ça, c'est parce que je bloguais déjà en cette période-là. C'est-à-dire entre 2006-2007. J'ai commencé ensuite à bloguer et ensuite Mondoblog est venu. Parce qu'à l'époque, c'était vraiment pas. Les gens n'accordaient pas assez d'importance au blogging. C'était un peu sorcier. Voilà. On estimait que bon, ça n'intéressait pas beaucoup les gens. Donc il a fallu beaucoup d'activités de sensibilisation. C'était pas évident que ça marche. Mais c'était un peu quand même, il fallait oser parce que moi, je voyais déjà des communautés au Sénégal, en Côte d'Ivoire, autour de nous, en Tunisie, donc où ça bougeait vraiment. Donc je dis que c'est bien possible, même s'il n'y avait pas beaucoup de blogueurs en ce moment-là. Donc en 2015, à partir de 2015, il y avait beaucoup plus. Maintenant, les gens commençaient de leur propre initiative à créer des blogs, à les animer. Et aussi avec les médias sociaux, donc les gens étaient beaucoup plus connectés. L'Internet plus en plus démocratisé et tout ça. Donc il y avait un engouement. Les élections de 2015 pointaient à l'horizon. Voilà, donc on a mis en place un bureau. Moi j'ai été président, on a mis en place un bureau et ensuite on a travaillé sur le tout premier projet, le projet Guinée Vote, qui a été le projet phare pour Ablogué qui nous a vraiment porté et qui a fait que les gens ont compris que bloguer, c'est pas comme ils pensent et qu'on peut vraiment agir sur des questions démocratiques.
Toi qui es le fondateur, qui a essayé vraiment de lancer le blogging, maintenant quand tu vois que c'est plutôt sur les réseaux sociaux, ou enfin qu'on parle de web activistes et puis de blogueurs, t'en penses quoi?
C'est vraiment la question. Mais moi, je pense qu'il faut avoir une autre approche de ça. C'est vrai que ça transporter tous les contenus qu'on produit sur les réseaux sociaux, c'est un peu dommage parce que il n'y a pas d'archives. Donc finalement, on sera à un moment où d'autres ne peuvent pas accéder à ce que nous produisons. Donc cet aspect de partage de savoir, je pense qu'avec les réseaux sociaux, ça a un peu limité en fait. Mais de l'autre côté, en fait, l'intérêt aussi, c'est que ça engage plus vite, l'information est partagée beaucoup plus vite.
Ça a plus d'impact en fait.
Plus d'impact, exactement. Donc ça a plus d'impact dans l'immédiat que lorsque vous mettez des articles, vous les produisez sur le blog. Donc, je pense qu'il faut profiter des deux et ne pas estimer que les réseaux sociaux, c'est mauvais. pour ne pas être contre la tendance, que vous vous dites, bon, je m'en fous des réseaux sociaux, vous produisez vos articles, vous mettez sur un blog, alors que votre objectif est que ça soit lu. Donc, ce n'est pas que ça soit aussi lu 10 ans après vous, mais que ça soit lu pendant que vous êtes encore là et que vous pouvez interagir avec les gens. Donc, cet aspect-là, cet élément-là, les réseaux sociaux ajoutent cela à ce que nous faisons.
Je m'appelle Mamadou Alpha Diallo. Je suis data journaliste et blogueur. Je suis président de l'association des blogueurs de Guinée. Au début, on était une organisation un peu juste de blogueurs informels. Bon, cet aspect-là, on le conserve encore. Mais de plus en plus, on est amené parfois à être sollicité sur des projets, sur des interventions.
Quel type d'intervention ?
Déjà, on a parlé d'un projet avec le ministère de la Jeunesse et l'UNFPA, qu'on appelle la Génération qui ose, donc qui est une plateforme sur la santé sexuelle et reproductive, avec laquelle on produit notamment un magazine trimestriel. Et l'objectif, c'est un peu de fournir de l'information sur la santé sexuelle et reproductive pour les jeunes et les adolescents. Donc cela passe par des comptes sur les réseaux sociaux, par beaucoup de vidéos. Bon, ça fait partie, c'est l'un des projets sur lesquels nous travaillons constamment. Mais de l'autre côté, on a aussi notre plateforme sur les promesses du président. Donc on appelle l'ID, qui veut dire promesses en sous-sous.
Et ça, c'est vous qui avez pris la décision de surveiller les décisions du gouvernement,
oui,
d'Alpha Condé.
D'Alpha Condé. Et ça, c'est juste après le projet Guinée Vote, en fait. Et donc après ça, on s'est juste posé la question, mais pourquoi, après avoir surveillé, observé l'élection, qu'est-ce qu'il fallait faire? Est-ce qu'il fallait attendre 5 ans plus tard, à la fin du mandat du président, venir faire la même chose? Le mieux, c'est d'un peu nous assurer que tout ce qu'il a promis a été réalisé. En tout cas, de faire un peu le monitoring de toutes ces promesses-là et tout ça.
L'association des blogueurs de Guinée, Ablogi, rassemble une 50aine de personnes. La plupart ont moins de 25 ans. Tous ne sont pas forcément des blogueurs, mais ils ont le web pour terrain de jeu. Et ce qui les réunit, c'est l'idée de défendre les droits et les libertés des citoyens guinéens. Mamadou Alpha Diallo.
On s'assure que les gens ils sont dans l'esprit d'Ablogi. Et ça fait que voilà, on a des candidatures parfois. Et c'est souvent après des blog camps qu'on organise et où on invite les aspirants membres. Mais après, nous-mêmes, on a été obligés aussi d'un peu modifier le statut d'Ablogi récemment. Donc maintenant, pour être membre d'Ablogi, il ne faut pas seulement être blogueur. On peut être blogueur et web activiste ou même développeur. Donc du coup, en fait, ça devient de plus en plus une communauté autour du numérique. Et ce qu'on constate, c'est que de plus en plus de blogueurs se convertissent en web activistes. Et donc, avec une utilisation très forte des réseaux sociaux, par contre, avec de moins en moins de contenu spécifique sur le blog, en fait.
Et alors, c'est quoi cette différence entre le blogging et le web activisme?
Pour nous, le blogueur, il se caractérise principalement par le blog qu'il anime et le blog qui est au centre, en fait, un peu de ce qu'il fait, en fait, de son action sur Internet. Donc, en gros, il va publier assez régulièrement des billets de blog. Alors qu'un web activiste, forcément, il peut ne même pas avoir de blog, en fait. Il a une page sur Facebook, il a un compte sur Twitter, et il produit du contenu, il devient une sorte d'influenceur, en fait, et donc de quelqu'un engagé qui défend des causes, mais à travers Facebook, à travers le numérique. On se rend compte de plus en plus que de plus en plus des utilisateurs ont du mal à aller sur des plateformes, en fait. Ils préfèrent rester sur les réseaux sociaux. Les gens ont un peu de la paresse d'aller. C'est que nous-mêmes, quand on fait nos... de cliquer, d'aller sur une autre plateforme. Quand nous-mêmes, on fait nos statistiques sur l'ID par exemple, c'est qu'on se rend compte qu'on n'a pas beaucoup de personnes qui vont sur la plateforme. Par contre, la page, elle attire beaucoup plus. Quand on met des vidéos, il y a beaucoup plus d'interactions. Ça fait que de plus en plus, nous-mêmes, on s'oriente vers la production de contenu, de vidéos, pour attirer nos cibles qui sont sur Facebook et qui ne veulent pas beaucoup venir en fait, sur des plateformes.
La parole continue de tourner au sein d'Ablogi et la discussion se poursuit autour des actions concrètes menées ces dernières années. Le changement de perception d'Internet et des réseaux sociaux qui est en cours dans le pays. La situation est compliquée en Guinée pour les journalistes, mais aussi pour les blogueurs qui sont eux aussi des producteurs d'informations.
Je m'appelle Abdoulaye Oumousso, je suis journaliste, blogueur, secrétaire général de Ablogi. On estime que nos campagnes ont eu des impacts et parce que les résultats, on a eu des résultats, donc c'est parce qu'il y a eu l'impact qu'il y a eu des résultats. Et on pense que Internet aujourd'hui est un autre moyen de liberté d'expression et de manifestation, mais qui au moins met à l'abri la vie des jeunes et puis des citoyens.
Et ça, le gouvernement l'a bien compris qu'aujourd'hui, l'impact d'Internet peut affaiblir justement les décisions.
Oui, justement, le gouvernement l'a compris. On pense d'ailleurs que c'est l'une des choses qui aurait peut-être encouragé le gouvernement d'avoir cette loi liberticide que Ablogui avait d'ailleurs dénoncée à l'époque également, avant même le vote de cette loi à l'Assemblée nationale.
De quelle loi ?
La loi sur la cybersécurité et la protection des données personnelles.
Et c'est quoi cette loi ?
C'est la loi qui autorise la censure en ligne, et on a eu affaire à approcher des députés, notamment des ministres et autres. On a dénoncé la loi à l'époque, mais malheureusement on n'a pas été accompagné par les associations de presse. Les gens pensaient que c'était une loi qui était dirigée que contre les blogueurs, oubliant que les journalistes aujourd'hui utilisent les mêmes moyens que les blogueurs.
Et les blogueurs sont des citoyens.
Et les blogueurs, c'est des citoyens. Au-delà d'être des citoyens, c'est du journalisme citoyen que les blogueurs font. Donc ils marchent sur la même plate-bande que les journalistes.
Il faut savoir qu'il y a eu un changement de perception vis-à-vis de l'Internet. Il y a quelques années, quand on trouvait une information sur Internet et vous mettez ça en avant pour attaquer une autorité publique, qu'est-ce qu'on disait ? On dit « Oh non, ça vient d'Internet. Ça n'a pas de sens. » On ne commentait pas en fait. Donc du coup, comme si une information est publiée sur Internet, c'était automatiquement, ça veut dire que ce n'est pas crédible. Aujourd'hui, c'est l'inverse qui se passe. C'est qu'aujourd'hui, on sait qu'on est beaucoup plus en plus conscient que ce qu'on dit sur Internet, c'est important en tant qu'autorité publique. Donc, du coup, ça a changé de perception. Avant, les gens ne s'intéressaient même pas, c'était rare de voir une autorité publique sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, ce n'était pas leur problème. Mais aujourd'hui, vous avez plein de ministres aujourd'hui qui sont sur Twitter, qui sont sur Facebook. D'autres qui ont engagé des community managers. Donc, vous voyez, donc ça veut dire que la perception a complètement changé. Donc, ils ont vu que non, la bataille plutôt, ça doit se jouer sur mon image sur Internet et non de dire que non, je ne touche pas du tout, je ne mets rien sur Internet. Donc, maintenant, eux-mêmes, ils fournissent. Donc, cette loi, ce n'est pas tout qui est mauvais dans la loi en question. La loi qui protège des données à caractère personnel et la cybersécurité qui consacre cette... C'est pas toute la partie de la loi qui est mauvaise. Et nous-mêmes, au niveau de Ablogui, au moment où on menait en fait ce plaidoyer, on n'était pas contre la loi tout entière parce qu'il y avait un vide juridique. C'est-à-dire les données personnelles n'étaient pas protégées, il y avait beaucoup d'arnaques, c'est-à-dire on arrêtait des gens qui ont arnaqué sous la base des mails et tout ça, on va en justice, même s'il y a tous les éléments, mais il n'y a pas de loi pour les condamner. Donc il y avait un vide juridique à la matière. Donc la loi a réglé en quelque sorte ces aspects-là. Mais le problème, c'est quoi ? C'est que en ce qui concerne la liberté d'expression, l'inquiétude est que c'est qu'on a... Il y a des articles qui ont été focalisés, qui peuvent être manipulés de manière à contrôler ou à punir ceux-là même sur lesquels il y avait un vide juridique, c'est-à-dire les simples citoyens. C'est-à-dire si vous êtes journaliste, il y a une loi, quand le contenu ne plaît pas, on sait ce qu'il faut faire. Donc les sites web rentrent dans ce cadre-là, donc on les applique la loi. Mais les citoyens qui sont aujourd'hui aussi devenus des médias, qui ont des comptes Facebook, qui ont des Twitter, il y a quelle loi qui s'applique à eux, étant donné qu'ils ne sont pas officiellement connus comme étant des journalistes, des professionnels de l'information. Donc, cette loi peut être manipulée effectivement dans ce sens-là, de sorte qu'on l'applique à tout le monde. Donc, on applique et non seulement aux citoyens, mais aussi à ceux-là qui ont un statut particulier comme des journalistes. Donc, le contenu de la loi, et si vous prenez aussi le contexte de la Guinée, c'est que il y a un problème, c'est que les réseaux sociaux aujourd'hui ont non seulement des côtés un côté avantageux pour nous, mais en des périodes critiques aussi, il faut dire que ça, c'est vraiment un danger. Ça devient un danger dans la mesure où n'importe qui peut diffuser de l'information sans être contrôlé. Bien sûr, je ne suis pas pour la censure, je ne suis pas pour qu'on contrôle les gens, ce qu'ils publient, mais plutôt que la personne qui ait une certaine autodiscipline. En des périodes comme ça, et vous savez aussi que les politiques instrumentalisent ça. Parce qu'il n'y a pas de parti politique aujourd'hui qui n'est pas structuré et qui a un groupe de gens qu'ils appellent des communicants, qui ont pour mission de diffuser des informations, de fausses informations, ou bien qui ont pour mission de donner des informations, de noyer des informations qui peuvent nuire à la réputation de leur parti ou de leur leader. Il y a des groupes de personnes aujourd'hui qui sont là, qui sont entretenus par des partis politiques, qui sont connus pour ça. Donc, en des périodes critiques, le débat n'est pas objectif. Le débat orienté par les politiques pour dire, il faut aujourd'hui, voici ce que lui, il a dit, voici comment il faut l'attaquer. On leur donne des informations qui peuvent nuire en fait à l'ordre public. Donc, il y a derrière des politiques qui ont de mauvaises intentions. Donc, il y a aussi des citoyens qui, avec la tension ethnique et tout ça, qui utilisent les réseaux sociaux pour diffuser des messages comme ça. Donc, d'une certaine manière, et nous, on n'était pas contre le vide juridique, mais on était plus contre cette loi que ça soit utilisé de la façon dont on est en train de l'utiliser aujourd'hui. C'est-à-dire les mêmes politiques qui peuvent passer par les gens pour faire passer des messages, leurs messages, et d'une manière, donc quand ça les arrange, mais quand ça ne les arrange pas, et puis voilà, on vous prend, on vous applique la loi, et voilà. Donc aujourd'hui, il y a ce problème-là auquel on est confronté, vu qu'il y a dépénalisation du délit de presse. Mais de l'autre côté, il y a cette loi qui peut être appliquée à tout le monde. Donc même les journalistes, quand ils pensent que ce que tu as publié, ça ne les plaît pas du tout. Donc on essaie de t'appliquer pas la loi sur la liberté d'expression et sur la liberté de la presse, mais plutôt la loi qui porte sur la cybersécurité. Donc cette manipulation-là, c'est ce que nous on craignait en fait et qu'on évitait que ça soit utilisé de manière à restreindre la liberté d'expression des citoyens.
10 ans de Web Guinéen, c'était un reportage de Raphaël Constant accompagné de Camille Sarrazin. On retournera en Guinée-Conakry dans quelques semaines pour un reportage consacré spécifiquement à l'état des médias dans le pays.
Ok, là on se replace, c'est bien.
Avant de se quitter, on va parler de Maracana, un sport né en Côte d'Ivoire qui est un dérivé du football. L'occasion de vous faire entendre un Mondoblog audio un peu particulier, puisque des blogueurs de Mondoblog se sont mobilisés à l'image de Raissa Yao. Notre Mondoblogueuse ivoirienne était sur place. Écoutez-la interviewer les deux seules femmes arbitres de cette compétition. Elle raconte ce que cela fait d'être une femme dans ce milieu très masculin.
Bonjour à vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter individuellement, s'il vous plaît?
Mademoiselle Sabra Nguessan-Elisabeth, arbitre de Maracana International. Bon, moi j'ai commencé au foot. J'ai commencé le football féminin. J'ai transité par le handball avant de venir au Maracana.
Mademoiselle Kwaku Désiré, arbitre international du Maracana.
Moi j'ai seulement joué au handball. Après j'ai fait l'arbitrage du handball. Et aujourd'hui je suis au Maracana.
Alors, comment est-ce que vous retrouvez arbitre? Est-ce qu'on peut connaître un peu votre histoire?
Bon, il faut dire que le sport, c'est depuis le bas âge. C'est une passion pour moi. C'est une passion et surtout l'arbitrage. Voir tout ce qui se pratique sur les espaces réduits, ça me fascine. Raison pour laquelle j'ai basculé au Maracana.
Moi, hier, je vous ai vu vous entraîner, tous les arbitres en train de s'entraîner avant le début des matchs. Et puis, au moins, sur 10 arbitres, j'ai vu que vous étiez que les seules femmes. Donc, deux femmes. Comment vous vous sentez dans ce milieu d'hommes-là?
Au milieu des garçons, on se sent en sécurité, nous sommes comme les hommes. Voilà.
Oui, je pense qu'elle a tout dit, hein. Avec les hommes, c'est une question d'habitude au fait. C'est une question d'habitude, puisqu'on fait le travail des hommes, on fait comme les hommes. Ce qu'ils font, on peut le faire, on le fait même bien. Donc, quand on est en maillot, on se sent plus comme une femme. Voilà, on fait, on joue ce qu'on peut jouer, voilà, on fait respecter les lois du Maracana.
C'était une interview menée par la mondoblogueuse ivoirienne Raissa Yao du blog Regard Indiscret. C'est la fin de cette émission. Ce reportage en Guinée était signé Raphaël Constant. Simon De Creuse était à la réalisation. N'hésitez pas à partager cette émission que vous pouvez, je vous le rappelle, écouter en version longue sur notre podcast. Je m'appelle Steven Jambeau et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure à la radio, pour un nouvel épisode de l'Atelier des médias.